Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
On parle peu de sport sur France Culture, mais il y a un sport au moins qui peut nous faire rêver, c'est la voile. Bonjour Didier Ravon, vous êtes journaliste au magazine Voile et Voilier. Vous avez notamment publié La Route du Rhum aux éditions Gallimard. Il faut tout d'abord nous dire ce qu'est cette course dont on a donné le départ dimanche dernier avec 123 skippers.
La Route du Rhum, c'est la transat française en solitaire. Hein. On part de Saint-Malo à l'automne et on arrive quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard pour certains bateaux aux Antilles, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre précisément.
Et alors cette année, c'est la course de tous les records parce qu'il y a différents bateaux qui prennent le départ de la Route du Rhum. Mais il y a notamment des bateaux, des monstres de 32 mètres avec ce qu'on appelle des foils. Il faut que vous nous expliquiez, Didier Ravon, de quoi il s'agit.
En fait, les foils, c'est d'énormes moustaches qui sortent des flancs des bateaux. Alors, on en trouve sur les grands trimarans, là, ce qu'on appelle les ultimes, ces bateaux de 32 mètres, absolument gigantesques. Et on en trouve aussi sur les monocoques, des bateaux qui font aussi le tour du monde, le Vendée Globe, hein, qui mesure 18 mètres et quelques. Et donc, en fait, ça se comporte comme une aile d'avion. C'est-à-dire qu'en fait, les bateaux sont archimédiens. Hein, donc, c'est-à-dire que les bateaux, ils flottent par leur volume de coque. Et avec les foils, avec l'accélération du bateau, c'est exactement comme un avion qui décolle. Mm-hmm. Et donc, ça sustente les bateaux. Alors, on parle de vol, mais c'est un petit peu exagéré parce que il y a toujours des vagues, hein, et la surface de l'eau est jamais vraiment plane. Mais c'est sûr qu'on a augmenté en 40 ans, puisque la Route du Rhum a 40 ans. Les performances des bateaux ont été multipliées par 3 et 3,5. Quoi.
Donc, c'est-à-dire que donc là, on parle d'une traversée qui pourrait durer quoi, 6 jours?
Ben là, oui, puisque François Gabart et Francis Joyon, qui sont au coude à coude ce matin, pourraient arriver samedi. Donc le record était actuellement détenu par Loïc Perron en 7 jours et 15 heures. Mm-hmm. Et il pourrait être abaissé à 6 jours. Quoi. 6
et
jours
pour traverser l'Atlantique en solitaire. À l'origine, donc on était sur quoi? Sur 25 jours
23 jours, quand Mike Birch a gagné la première Route du Rhum, hein, sur un tout petit bateau jaune, un petit trimaran jaune de 12 mètres. Et il avait doublé pour 98 secondes le français Malinowski, qui était à l'époque sur un grand monocoque de 21 mètres.
Et alors on parle donc pour certains de ces bateaux qui utilisent des foils de vitesse de pointe de 80 km/h sur mer. Comment réaliser cela en solitaire? Ça veut dire que l'électronique embarquée doit être décisive.
Alors l'électronique embarquée est décisive, mais justement, le règlement aujourd'hui n'autorise pas à avoir un asservissement automatique des foils, comme c'est le cas par exemple sur les bateaux de la Coupe de l'Amérique, et comme c'est le cas, j'ai envie de dire, sur les avions.
C'est-à-dire qu'en fait, les petits foils, les grands foils aussi, n'ont pas le droit d'être manipulés informatiquement, automatiquement.
Exactement, c'est-à-dire qu'il faut le faire manuellement, et donc les skippers reconnaissent tous qu'ils cogitent, mais ils tâtonnent aussi parce qu'ils n'ont pas encore, j'ai envie de dire, cette culture des foils. Je pense que dans quelques années, ça sera le cas. Et donc, dans certaines conditions, en effet, quand la mer est plate et que le vent est finalement assez moyen, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de vent, hein, sur ces bateaux-là, ils arrivent à avoir des performances absolument dingues. Ouais, en effet, alors nous, on parle toujours les marins, on parle toujours en nœuds. Donc, un nœud, c'est 1,852 km, mais en gros, les bateaux atteignent aujourd'hui des vitesses de 45-50 nœuds, donc 90 km/h.
Oui, c'est tout à fait inimaginable avec un bateau à moteur. Déjà, ça tape beaucoup, même quand la mer n'est pas nécessairement creusée. Et là, en plus, on parle de creux de 8 mètres. Alors, qu'est-ce qui peut se passer, hein? Un creux de 8 mètres, c'est quasiment 3 étages, quand on a un bateau comme ça qui va se retrouver dans une mer déchaînée?
Ben, on fait le dos rond. On fait le dos rond. Je lisais encore, là, avant d'arriver ce matin, des mails envoyés cette nuit par les navigateurs, mm-hmm. Notamment des gens qui ont fait des tours du monde, qui sont rompus à la navigation en solitaire, à la compétition, et qui disaient qu'ils n'en pouvaient plus parce qu'ils avaient, les conditions sont épouvantables. Le problème de creux de 8 mètres, c'est que quand on est au sommet de la vague et puis que derrière il y a un grand vide, c'est pratiquement comme un accident de voiture. C'est aussi pour ça que les bateaux finissent par souffrir, même s'ils sont super bien construits aujourd'hui. Et surtout, les conditions qu'ils rencontrent ces jours-ci sont assez classiques pour la saison. Hein. C'est les perturbations atlantiques, sauf qu'il y en a 3 de suite.
Et une mer croisée, il faut expliquer croisée. D'ailleurs ce qu'est une mer croisée, Didier Ravon.
Une mer croisée, en fait, en général, les dépressions commencent toujours avec des vents de sud. Après, les vents tournent au sud-ouest. Hein, c'est pour ça qu'il fait très doux ces jours-ci sur la côte atlantique et à Paris. Et ensuite, quand on a ce qu'on appelle la bascule ou la rotation au nord-ouest, c'est quand on voit après quand le temps se redevient beau après la pluie, en gros, le vent se met à souffler du nord-ouest et donc beaucoup plus fort avec des grains. Et donc il y a deux sortes de vagues, puisque c'est le vent qui forme les vagues. Les vagues deviennent croisées et il suffit qu'il y ait encore un peu de houle qui arrive des États-Unis et c'est une véritable bassine, quoi.
Alors il y a déjà l'un de ces bateaux qui a chaviré. En fait, ces navigateurs, donc sur ces monstres de 32 mètres, sont un peu en train d'essuyer les plâtres. Il n'y a pas de plâtre sur l'eau, mais bon, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'inconnus sur la capacité de ces bateaux à faire le voyage.
Oui, il y a encore beaucoup d'inconnus et en même temps, il y a des exceptions qui confirment les règles. Je pense à François Gabart qui a fait un tour du monde cet hiver seul sur un bateau de 31 mètres 50, hein, massif, en 42 jours, ce qui est quand même extraordinaire. J'ai envie de dire je pense que dans très peu de temps, ces bateaux seront totalement fiabilisés. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la limite, c'est presque le bonhomme, parce que moi, j'étais surpris d'un truc, c'est sur ces bateaux-là. Il y a des toiles d'araignée partout, c'est-à-dire qu'il y a des cordes tendues partout pour se tenir. On voit que ils ont tous des casques à l'intérieur, ils ont des protections comme les gens qui font du hockey sur glace.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le problème, c'est de savoir aussi, vous parliez des machines, mais comment les hommes vont résister à de tels chocs?
Je crois que les machines, elles ont, c'est pas nos limites, mais ces bateaux-là peuvent encaisser des vitesses absolument faramineuses. Par contre, en effet, aujourd'hui, la difficulté, c'est déjà de réparer quand il y a une avarie. Et puis c'est de tenir physiquement, quoi.
Merci Didier Ravon. Votre livre, La route du Rhum, 40 ans de légende, c'est aux éditions Gallimard.